Vous êtes toujours sur Globule Radio avec Jeanne d'Arc. Salut, on est des 4e à Jeanne d'Arc et nous avons préparé une émission qui est composée d'interviews, micro-totoirs et de chroniques personnelles. La musique que vous venez d'écouter s'appelle End of Beginning de Joe. J'espère que vous allez bien aimer la prochaine heure.
Bonjour, moi c'est Samuel. Je fais du snowboard, de l'escalade et du VTT de descente et au club de YRC. Plus tard, j'aimerais faire des études de trading à Genève.
Moi, c'est Talia. J'aimerais vivre jusqu'à au moins 90 ans pour passer au siècle prochain. Je suis française, australienne et galloise. J'aime bien faire du snow et j'adore la natation. Du coup, je suis nageuse à Cham avec Alex.
C'est moi, je m'appelle Alexandra, mais tout le monde m'appelle Alex. J'ai 13 ans, je suis française et anglaise. Je suis née en France, mais mes parents sont anglophones. Alors, je m'excuse en avance pour mes fautes. Bien sûr, j'adore nager. L'année dernière, je me suis qualifiée aux France. Je déteste les araignées, mais je veux quand même visiter l'Australie et voyager autour du monde. Je voudrais aussi faire un road trip en Amérique avec des potes.
Je suis russe et oui, j'ai un ours, une balle à laïka et je bois de la vodka chaque matin. Je suis Juliana et j'ai 14 ans. Depuis mes 8 ans, on me pose des questions bêtes. Est-ce que tu bois de la vodka chaque jour? Est-ce que c'est ton ours qui t'amène à l'école? Et chaque fois, je réponds « Bien sûr ». Je suis musicienne, je fais de la guitare et du piano depuis 3 ans. Je parle russe, français et anglais et j'aime bien cuisiner avec ma sœur Anastasia, je t'aime.
Maintenant, une petite musique pour monter l'atmosphère. Voici « A Sky Full of Stars » de Coldplay.
Ma première question à l'office de tourisme à Chamonix était « Quelles sont les activités principales qu'on met en place pour attirer les touristes et pourquoi viennent-ils ?»
Ils ont répondu.
Pour nos interviews, micro-trottoirs et reportages, notre thème général était les mobilités humaines transnationales. Mais pour nos chroniques, nous avons choisi des sujets plus personnels, comme les requins, les célébrités, l'école et le freeride. Du coup, je vais commencer avec mon interview sur le tourisme à Chamonix. J'ai envoyé des questions à l'office de tourisme et j'ai fait un reportage avec l'aide d'Alex. Quels sont les activités principaux qu'on met en place pour attirer les touristes? Pourquoi viennent-ils?
Et ils ont répondu que la vallée de Chamonix tire sa richesse de ses paysages et de son offre d'activités, diversifiée avec également ses commerces et services accessibles toute l'année.
Quel type de touristes visite Chamonix?
Elle a dit que la clientèle touristique est à la fois française et étrangère. Les Français sont un peu plus majoritaires à visiter la vallée en été et inversement en hiver. Parmi les clientèles étrangères, le Royaume-Uni reste le pays de provenance majoritaire. On constate un retour de la clientèle américaine depuis 2022 et qui s'est accentué sur 2023 à la fois en été et en hiver. Vient ensuite une majorité des clientèles en provenance de l'Europe. Même si la destination accueille des clientèles du monde entier, les profils de la clientèle les plus représentés sont les sportifs, les familles et les contemplatifs.
Qui sont les meilleurs touristes pour l'économie de Chamonix?
La réponse était les séjournants, c'est-à-dire les touristes qui viennent séjourner et passer des nuitées dans les hébergements touristiques, participent davantage à l'économie locale, contrairement aux excursionnistes qui viennent visiter la vallée uniquement sur la journée.
Quelles sont les semaines les plus occupées à Chamonix?
La plus forte fréquentation se concentre sur les périodes des vacances scolaires françaises. En hiver, les semaines de fin d'année, Noël et Nouvel An, et les semaines des vacances de février. En été, les mois de juillet et août.
Quelle activité culturelle mettons en avant pour les touristes?
Elle nous a dit qu'il y avait beaucoup d'animations et d'activités qui sont proposées. Cela va des grands événements comme le festival de musique Cosmo Jazz, la fête des guides, la foire aux moutons, le combat des rennes, le centenaire des JO cette année en 2024. On peut aussi citer les visites du patrimoine, les expositions temporaires ou permanentes dans les musées ou espaces d'interprétation.
Comment les touristes entendent-ils parler de Chamonix?
Et pour finaliser, elle a dit « Chamonix bénéficie d'une forte popularité et d'attractivité à l'échelle internationale, amplifiée par la présence du Mont-Blanc. Les sites phares de l'Aiguille du Midi et du Mont-en-Vert et les réseaux sociaux qui mettent en avant les grands spots instagrammables. »
Merci Talia pour ton interview. Là, vous allez écouter la chanson « Dark Red » de Steve Lacy qui sera suivie de la chronique d'Alex sur Eminem.
Ma première question à l'office de tourisme à Chamonix était « Quelles sont les activités principales qu'on met en place pour attirer les touristes et pourquoi viennent-ils ?»
Ils ont répondu. Something bad is about to happen to me. I don't know what, but I feel it coming. Might be so sad, might leave my nose running. I just hope she don't wanna leave me. Don't you give me up, please. Don't give up on me. I belong with you, only you, babe. Only you, my girl, only you, babe. Only you, darling, only you, babe. Only you, my girl, only you, babe. Only you, darling, only you. Something bad is about to happen to me. Why I feel this way, I don't know, maybe. I think of her so much, it drives me crazy. I just don't. Darling, only you.
l'arrivée de la lumière artificielle, tout commence à changer et ça ne fonctionne plus de la même manière.
Et alors, c'est quoi le problème ?
Tu vois, selon une neurobiologiste Dr Claude, le sommeil des ados prend naturellement du retard quand ils ont entre 10 et 21 ans, à cause d'une sensibilité à la lumière et qu'ils peuvent passer des heures devant les écrans avant le coucher.
Ah bon ? Mais du coup, le ministère de l'Éducation nationale pourrait faire quoi avec ?
Eh bien, c'est très simple. Il pourra retarder le début des cours d'une heure, voire même d'une heure trente. En fait, selon une étude américaine, commencer les cours à 9h plutôt qu'à 8h diminue l'absentisme, les retards, améliore les résultats scolaires des élèves et leur état psychologique. Je pense que les écoles doivent réfléchir à ce problème, vu que ça touche plein d'adultes.
Et maintenant, la musique Sweater Weather de The Neighborhood. All I am is a man. I want the world in my hands. I hate the beach, but I stand in California with my toes in the sand. Use the sleeves of my sweater, let's have an adventure. Head in the clouds, but my gravity's centered. Touch my neck and I'll touch yours. You and
Merci beaucoup Juliana, j'adore ton idée, j'espère qu'on pourra mettre cela en place. Et voilà la chanson de Michael Jackson qui s'appelle Beat It, mais avant je vais vous faire écouter mon interview sur les touristes. On se retrouve donc avec Marie-Ange Flores, à qui on va poser des questions sur le tourisme à Chamonix.
Déjà bonjour, merci de me recevoir. Ben, je m'appelle Marie-Ange Flores, j'ai 39 ans, je vis sur Chamonix depuis 15 ans maintenant. J'ai une société de nettoyage en bâtiment et en gestion locative, type appartement ou chalet Airbnb. Donc je fonctionne avec des clients en direct, c'est-à-dire que ces clients me demandent de m'occuper de leurs biens pour faire des remises à blanc de leur appartement ou de leur chalet entre les locations Airbnb. Donc ce sont des clients français qui n'habitent pas sur Chamonix. Donc soit je m'occupe de cela en direct, soit je suis prestataire de service pour les conciergeries sur Chamonix, donc qui font appel à moi au besoin pour faire des remises à blanc de chalet de leurs clients.
Super, du coup dans votre métier vous êtes souvent en relation avec des touristes. Et du coup, la première question, ça va être, parmi vos clients, y a-t-il une nationalité plus présente? Et si oui, laquelle?
Alors non, je ne vois pas forcément les locataires. Je n'y croise que très rarement, mais de temps en temps, ça m'arrive de les voir. Il y a de toutes les nationalités. Ça va dépendre surtout des périodes en fonction des vacances scolaires des pays qui sont aux alentours.
Et à Chamonix, pensez-vous que l'on pourrait vivre sans touristes?
Je pense que Chamonix a développé beaucoup de métiers différents depuis toutes ces années, qui sont basés exclusivement sur le tourisme. Aujourd'hui, c'est l'activité principale de la vallée. Je pense que sans tourisme, ce serait vraiment compliqué pour beaucoup de corps de métier et beaucoup d'entreprises.
Prochaine question. Pensez-vous que le réchauffement climatique pourra affecter le tourisme à Chamonix dans les prochaines années?
Je pense que le réchauffement climatique va toucher la plupart des domaines skiables français. Les clients vont plutôt se diriger vers des stations de ski qui sont assez hautes. Donc je pense que Chamonix va tirer un peu son épingle du jeu dans les prochaines années, où c'est que les touristes vont justement plus se diriger vers notre vallée. Donc ce sera plutôt bénéfique. Mais bénéfique avec un. Avec beaucoup plus de monde, c'est certain, mais je pense que Chamonix peut vivre encore plusieurs années du tourisme, mais naturellement, au bout d'un moment, ça va changer comme tout domaine skiable.
Et vous, en tant que résidente de la vallée de Chamonix, est-ce que les touristes affectent votre quotidien? Et si oui, comment?
Je pense que ce qui nous impacte le plus directement, c'est les loyers dans un premier temps et la consommation générale où les prix sont forcément plus élevés étant donné le tourisme conséquent. Malgré tout, hormis la circulation en période haute, je me sens quand même privilégiée dans cette vallée malgré un certain coût de la vie dans notre vallée.
Maintenant, je vais essayer de vous avertir et vous informer de comment, combien et pourquoi nous tuons les requins. Le sais-tu que la vache est plus mortière que le requin ? Par an, les requins mènent environ 60 attaques contre les humains, dont approximativement 7 sont mortelles. Mais nous, humains, on en tue environ 110 millions par an. Seulement 5 espèces de requins sur 500 attaquent les humains. Ça, ce qui équivaut à un tiers des espèces de requins en voie de disparition, et selon l'organisation de l'ONU, 90% de la population des requins ont disparu en un siècle. La cause de mort de ces nombreux requins est qu'ils se retrouvent coincés dans les filets et sont donc tués, où il y a aussi le finning. Le finning consiste à pêcher les requins, découper leurs ailerons à vif et les rejeter agonisants ou morts dans la mer. Le finning n'est ni géré ni surveillé dans la plupart des pays asiatiques, donc la majorité des ailerons sont exportés vers le marché asiatique. Mais en 2014, plus de 100 pays ont interdit le finning. Environ 40 millions de requins subissent le finning par an.
Y a-t-il des lois contre ou pour la pêche aux requins ?
Dans l'Union européenne, la pêche est autorisée pour plusieurs espèces de requins, à condition que l'animal soit débarqué en entier. Le corps du requin doit être en entier par les pêcheurs. Il est hors la loi de remettre le reste des requins dans la mer, alors que le finning est strictement interdit pour tous les requins. Le marché et la commercialisation des ailerons demeurent légales, donc il est tout à fait possible de l'acheter, même si la plupart du poisson de requin est envoyé en Asie, car le commerce des ailerons est beaucoup plus populaire là-bas. Si on pêche un requin illégalement en France, on peut prendre une amende de 22 500 euros. En 2012, le Taïwan a interdit le finning et a diminué la vente des ailerons dans les restaurants et les hôtels. En 2017, la Chine et le Japon ont arrêté le trafic des ailerons des requins et ont limité le commerce du poisson.
Y a-t-il des conséquences ?
Oui, cette pêche et ce commerce continuent, on perdra certaines espèces de requins. La perte de ces espèces provoquerait un effet ricochet dans la selle alimentaire, comme les proies dont ils se nourrissent augmenteraient en nombre et les prédateurs des requins mourront de faim. Et tout cela déclencherait des perturbations imprévisibles qui mettraient en danger la sécurité alimentaire de toute la faune et flore aquatique. Donc cette pêche devrait être au moins limitée et surveillée pour éviter la perte de ces requins. Certaines espèces devraient aussi être protégées afin qu'ils puissent se reproduire pour ne plus être en voie de disparition ou pire. Maintenant, voici Give Me More de Britney Spears.
It's Britney, bitch. Give me more, 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 give me more this one coming. The incredible Lago. The legendary Miss Britney Spears. And the unstoppable danger. You're gonna have to remove me. Cause I ain't going nowhere.
Maintenant, le micro-totoir d'Alex, qui est sur notre thème général, les mobilités humaines transnationales. Vous êtes toujours sur Global Radio avec les 4e de Jeanne d'Arc.
Bonjour, quelles ont été les principales différences entre ta vie à Chamonix et ta vie de la ville où tu étais avant ?
Bonjour, je m'appelle Enzo, avant j'étais à Hong Kong. Les principaux différences, c'était que le transport en commun, c'était beaucoup mieux là-bas qu'ici. Il y avait beaucoup plus d'options et c'était vraiment à l'heure, mais ici c'est un peu nul.
La différence que j'ai vraiment vue, ça c'est que les cashiers sont beaucoup plus gentils là. Et aussi le problème avec des transports publics est beaucoup plus grand en Ukraine. C'est beaucoup plus difficile d'avoir un ticket pour aller au bus ou en train. Mais là, Chamonix, c'est beaucoup plus facile, ça c'est très bien.
Sur les écoles, par exemple, beaucoup d'écoles en Russie, là-bas, il n'y a pas vraiment de respect envers des élèves. Enfin, là-bas, il y a des profs qui sont hyper méchants avec les élèves. Ils peuvent dire des insultes, ils peuvent dire des trucs hyper méchants. Mais, par exemple, là-bas, dans toutes les écoles, déjà, les écoles sont un peu, enfin, pas mélangées, mais genre, il n'y a pas les trucs comme l'école maternelle, l'école, le lycée, le collège et tout. Genre, c'est tout dans un même établissement et il n'y a pas vraiment de séparation. On peut utiliser les téléphones là-bas quand t'es au collège, ou même en maternelle, tu peux utiliser des téléphones. Enfin, là-bas aussi, la plupart des écoles, elles sont un peu mal faites. Genre, quand tu rentres là-bas, t'as pas très envie de rester. T'as envie de partir. Alors qu'ici, par exemple, l'école dans laquelle je suis, elle est belle, elle est bien faite, il y a du respect envers des élèves, même si... Il y a aussi moins de devoirs ici que là-bas, parce que là-bas... Ouais, là-bas, t'as plein de trucs à écrire, plein de trucs à faire, t'as pas le temps. Et aussi, là-bas, l'emploi du temps, dans la plupart des écoles, j'aime plus. Parce que là-bas, t'es à l'école de 8h jusqu'à 14h à peu près, ici, c'est jusqu'à 16h. Et du coup, mais je crois que là-bas, j'avais plus de temps pour moi-même, parce que du coup, on finissait plus tôt qu'ici. Mais ici, vraiment la plupart du temps que l'école, elle prend, comment dire, genre ça sert un peu à rien. Parce qu'il y a les heures d'option et tout qu'on pouvait juste supprimer et libérer les élèves plus tôt. Et du coup, oui, je pense que je me trouve un peu plus fatiguée ici que là-bas. Mais là-bas, il y avait beaucoup plus de travail à faire pendant les heures que t'es dans les cours.
Il y a beaucoup plus de touristes ici que parce que après Covid, Hong Kong devenait un peu étrange. Et ici, c'est encore très bien. Mais il y a beaucoup plus des attractions que Hong Kong. Plus de nationalités là que ici. Mais les gens ici sont plus gentils.
Je trouve le niveau un peu culturel, enfin plutôt les gens, parce que. En Russie, je trouve des fois un peu plus méchant, un peu moins souriant, mais ils sont plus honnêtes. J'ai beaucoup vu des gens qui sont un peu hypocrites, un peu comme ça.
Beaucoup plus de gratte-ciel là qu'ici. Les montagnes ici sont plus grandes, alors le paysage c'est beaucoup plus différent.
Merci beaucoup à Enzo, Alexandre et Juliana de Jeanne d'Arc d'avoir participé à mon micro-totoir. Maintenant, Samuel avec sa chronique personnelle sur le freeride.
je vais vous parler du ski hors piste et du freeride. Le freeride est une pratique de ski en hors piste qui comprend de nombreux risques. Ces risques sont souvent changeants en fonction de la météo. La météo varie extrêmement vite en montagne, c'est pourquoi il est fortement conseillé de se renseigner la veille et également d'aller voir les pisteurs sur le domaine skiable. En cas d'avalanche, ils seront nécessaires pour permettre aux autres de vous retrouver sous la neige ou pour porter secours avant l'arrivée des professionnels.
Mais pourquoi c'est obligatoire ? Pourtant, énormément de personnes pratiquent le hors-piste sans ce matériel.
Oui, malheureusement, beaucoup y pratiquent sans. C'est notamment à cause de beaucoup d'accidents. Parfois même, certains ont le matériel mais ne savent pas l'utiliser. C'est pourquoi il faut y prendre obligatoirement en cas d'avalanche. Le DEVA est un dispositif que l'on met sur nous et qui émet et reçoit des signaux, communique avec les autres DVA. Ils pourront vous renseigner. Il permet en cas d'avalanche où une personne serait enterrée de le retrouver grâce à notre DVA en cherchant des signaux qui permettent de retrouver la personne ensevelie. Deux autres outils sont obligatoires, la pelle et la sonde. Une sonde est une tige qui permet d'être enfoncée sur le sol. En cas d'avalanche, cela signifie que vous avez touché la personne enterrée et aussi savoir où creuser. La sonde est utilisée quand vous saurez précisément où est enterrée la victime après l'avoir cherchée avec le DVA. À ce moment-là, il faudra sonder une fois. Il ne vous reste plus qu'à creuser pour déterrer la personne.
Mais Samuel, les pisteurs ne sont pas là seulement en cas d'accident. Les pisteurs pourront vous renseigner sur les risques à avalanche ou même donner leur avis sur l'état de la neige en hors-piste. La météo, s'il fait trop chaud, peut par exemple réchauffer la neige et donc s'alourdir, ce qui peut provoquer davantage d'avalanches. A l'inverse, si la neige est beaucoup plus froide, elle peut ne pas être adhérente, voire verglacée. Cela peut être très dangereux, car cela risque de tomber et de dévaler toute la pente, ce qui peut être mortel. Mais avant de s'aventurer en hors-piste, il faut déjà connaître les chemins. Pour cela, il faut savoir où s'échapper de la piste et comment la retrouver. Plusieurs possibilités, allez voir les pisteurs qui seront toujours là pour vous aiguiller. Également les employeurs, des remontées mécaniques ou encore les moniteurs de ski pouvons vous conseiller.
Mais Talia, les pisteurs ne sont pas là seulement en cas d'accident.
Et non, ils sont là avant tout pour vous renseigner sur les risques, mais ils sont évidemment là en cas de secours. Ils pourront vous indiquer les hors-pistes et les moins dangereux, ceux où il y a le meilleur moins de risques et surtout les meilleurs endroits à skier en fonction du risque de votre niveau.
Sachant qu'une fois engagé en dehors des pistes balisées, vous êtes en ski hors piste. Donc vous êtes complètement en autonomie, vous êtes responsable de votre propre sécurité ainsi que des personnes qui vous accompagnent.
Mais on peut pratiquer seul pourtant.
Oui, mais c'est fortement déconseillé. Être seul signifie que vous êtes pris en avalanche, aucune personne ne pourra prévenir les secours et vous sauver. Il faut être au minimum deux, car si quelqu'un est pris dans une avalanche, l'autre pourra la secourir. Maintenant je vais vous parler du matériel. Pour cela, vous avez besoin obligatoirement de trois objets, votre équipement classique, DVA, pelle, sonde. En cas d'avalanche, ils seront nécessaires pour permettre aux autres de vous retrouver sous la neige ou pour porter secours avant l'arrivée des professionnels. Mais pourquoi c'est obligatoire ?
Pourquoi c'est obligatoire ? Pourtant, énormément de personnes pratiquent le hors-piste sans ce matériel.
Oui, malheureusement, beaucoup y pratiquent sans. C'est notamment à cause de beaucoup d'accidents. Parfois même, certains ont le matériel, mais ne savent pas l'utiliser. C'est pourquoi il faut y apprendre obligatoirement en cas d'avalanche. Le DVA est un dispositif que l'on met sur nous et qui émet et reçoit des signaux qui communiquent avec les autres DVA. Il permet qu'en cas d'avalanche, où une personne serait enterrée, de la retrouver grâce à notre DVA en cherchant les signaux de la personne ensevelie. Deux autres outils sont obligatoires, la pelle et la sonde. Une sonde est une grande tige qui permet d'être enfoncée dans le sol en cas d'obstacle. Cela signifie que vous avez touché la personne enterrée et savoir où creuser. La sonde est utilisée quand vous saurez précisément où est enterrée la victime après la recherche du DVA. À ce moment-là, il faudra sonder une fois fait, il ne vous reste plus qu'à creuser pour déterrer la personne. En cas d'avalanche, ils seront. Maintenant la conclusion. En conclusion, Pour pratiquer leur piste, il est important de connaître les risques encourus et si on ne les connaît pas, il faut aller voir les pisteurs présents sur le domaine skiable pour qu'ils puissent vous aiguiller sur la météo. Et que pour pratiquer leur piste, il faut être conscient que vous êtes responsable de votre groupe et que vous êtes en parfaite autonomie. Il est donc obligatoire d'avoir le matériel requis, des VA Pelson, pour pouvoir être en sécurité en dehors des pistes et ne pas seulement avoir le matériel classique. Je vous transmets les connaissances que j'ai acquises grâce à la formation continue au sein de mon club, le YRC, de mon stage de 4e et aussi mon stage de 4e, pisteur secouriste. Maintenant, une chanson pour mon grand-père, Canción del Mariachi.
Lo mejor, a mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra. Me gusta cantar el son, mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón.
Musique. Et enfin, pour la dernière partie de notre émission, nous avons le micro-totoir de Julana, qui est sur le thème des chamonnières qui quittent, ou pas, la vallée. Alors, Julana, qui avez-vous interviewé et qui étaient vos personnes qui vous avez demandé les questions dans les rues ?
J'avais juste demandé les questions aux gens. Je me rappelle, il y avait... une femme du collège, je crois. Je l'ai vue plein de fois. Je ne sais plus comment elle s'appelait. Mais aussi, il y avait juste des gens que je ne connaissais pas. C'était plutôt des gens assez adultes. Du coup, voilà.
Leur décision était-elle plus de rester dans la vallée ou de partir ?
Ça dépendait. En fait, les gens qui sont plus vieux, ils disaient plutôt qu'ils restent, qu'ils adorent la montagne. Et les gens qui sont plus jeunes, en fait, il y avait pas mal qui ont disait « oui, je voudrais partir ». Surtout, c'était le problème de logement, le problème d'argent. Et il y avait aussi, je me rappelle, il y avait un homme qui avait dit qu'il a déjà parti en Suisse, mais c'était par rapport à son travail.
Merci. Bon, on va commencer avec toi.
Est-ce que vous avez déjà pensé à quitter la vallée de Chamonix ou vous connaissez quelqu'un qui voulait ?
Alors moi personnellement non, j'ai beaucoup voyagé depuis que je suis toute jeune. J'aurais eu la possibilité d'aller vivre n'importe où ailleurs, mais je suis toujours revenue au pied de mes montagnes.
Moi j'ai jamais voulu quitter la vallée, je me suis toujours sentie à l'aise ici, je ne changerai jamais. Et j'ai des amis oui, qui sont partis parce que c'était trop compliqué en termes d'argent. Et...
Alors moi, j'ai pas voulu quitter la vallée. Après, je connais des gens, oui, effectivement, qui souhaitent partir de la vallée. Après, plutôt du point de vue du logement, où c'est plus compliqué de pouvoir se loger sur Chamonix.
Je réfléchis à chaque fin de mois, parce que la vallée de Chamonix insinue un certain moyen pour y vivre. Ouais, il faut quand même un petit budget.
Alors, je l'ai déjà quitté, la vallée de Chamonix. Maintenant, j'habite en Suisse.
Et pourquoi voulez-vous quitter la vallée de Chamonix ?
Mais je ne suis pas parti parce que je n'aimais plus la vallée. Je suis parti pour le travail et également pour voir d'autres horizons. Parce qu'au bout d'un moment, ça reste une petite vallée. C'est bien d'aller voir autre chose.
Belle Aquitée pour le côté budget de vie, qui est quand même beaucoup, beaucoup plus cher ici. Et si on descend simplement de 5 km ou 10 km sur le viaduc, ça fait...
Merci à tous ceux qui ont accepté d'être interviewés ou participer à un micro-trottoir. Merci à Globule Radio de nous avoir accueillis et notre collège d'avoir fait ce projet avec nous. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses. Et pour marquer la fin de notre émission, voici Dédicace de ICO. Avant de commencer...